On se le cachera pas. 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi à la Banque Nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado Se tirer d'affaires. Une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque Nationale, bonne écoute.
Je me donnais pas la permission d'emprunter de l'argent parce que je le voyais comme mettre l'avenir de mes enfants à risque. Donc, si ça va pas bien, mais là, en plus, je dois de l'argent à quelqu'un d'autre en plus de pas avoir de l'argent. En fait, je me suis rendu compte que j'assumais pas le côté entrepreneur.
Bienvenue dans cet épisode de Se tirer d'affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque Nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec Inc. Comment le sait-on? On vous a sondé. Dans cet épisode, on tente de déterminer comment amadouer le crédit. Je m'appelle Catherine Charron. On se lance. Avant toute chose, qu'est-ce que le prêteur évalue avant d'octroyer un financement à une entreprise?
En fait, le prêteur va regarder, je pourrais dire, quatre choses. La première chose, c'est pour, on veut évaluer la probabilité de défaut de l'entreprise.
On vient d'entendre Vincent Beaulieu de Mers. Il est comptable et expert conseil en financement d'entreprise chez Bilan Inc.
Pour ça, on va analyser l'industrie. On va analyser la situation personnelle de l'entrepreneur et on va analyser son entreprise. Si on a une entreprise, si on a un commerce de détail, un restaurant, on sait que l'industrie est faible présentement, c'est plus difficile. Par contre, si on est dans un distributeur dans l'alimentation ou dans le bois, on sait qu'il y a une rareté dans le bois, donc on est dans un secteur que présentement, selon ce qui se passe dans l'économie, dans le monde au niveau plus macroéconomique, ben on sait que c'est un secteur qui est plus fort. Donc ça vient nous aider. Ensuite de ça, on a l'individu. L'individu, ben, on va regarder son lifestyle, justement. Est-ce qu'on a besoin de grosses sommes pour assumer notre rythme de vie quotidien? Est-ce qu'on possède des actifs personnels? Est-ce qu'on a des fonds de placement? Si on a de l'argent, ce que ça dit aux banquiers, c'est qu'on a une capacité de réinjection. Donc, si jamais l'entreprise va moins bien, ben l'entrepreneur va être capable d'en remettre de sa poche. Donc, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et ultimement, on va regarder l'entreprise. Donc, l'entreprise, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'entreprise est capable, avec sa rentabilité passée, d'assumer les versements sur ses prêts? Si on a un petit enjeu par rapport à ça, mais qu'on a une forte capitalisation dans l'entreprise, donc qu'on a des actifs, qu'on a des fonds, ben qu'on sait que l'entreprise est capable, à même son fonds de roulement, à même ses actifs, de perdurer dans le temps, même si on avait une année ou quelques années plus difficiles, ben c'est intéressant.
Le prêteur cherche en fait à déterminer la dépendance mutuelle entre une entreprise et son entrepreneur.
Jusqu'à quel point l'entreprise a besoin de l'entrepreneur ou l'entrepreneur a besoin de son entreprise. Donc, supposons qu'on a une personne qui investit beaucoup dans son entreprise, donc qui a plus beaucoup d'argent ou d'actifs au niveau personnel, mais qui n'a pas des grosses dettes au niveau personnel et qui n'a pas de retard de paiement, bien ça vient plus ou moins affecter notre dossier d'entreprise. Par contre, si on a une personne qui a eu des retards, on parle au niveau des paiements de carte de crédit, marge de crédit, hypothèque, puis maintenant on voit même les compagnies de cellulaire, on peut se dire que si l'entrepreneur a de la misère ou a été négligent au niveau de ses paiements, au niveau personnel, ça pourrait bien arriver au niveau entreprise. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions financières, tout comme vous qui êtes en affaires, ne sont pas des organismes de charité. Donc, ils veulent faire des bons prêts. Puis, qu'est-ce qu'un bon prêt? C'est un prêt qu'on a une probabilité forte que l'entreprise va être en mesure de nous payer. Donc, pour faire un petit lien avec ça, si j'ai pas été capable de payer ma carte de crédit pendant 90 jours, que je suis en retard de 6 mois sur mon compte Vidéotron, que j'ai sauté 2 paiements sur mon hypothèque personnelle, ben ça se pourrait que j'ai des problèmes de dépassement au niveau de ma marge de crédit et que également au niveau de mes prêts, que j'ai des retards. Puis ça, on veut pas ça.
Avant de vous présenter devant un prêteur, Vincent Beaulieu de Mers estime qu'il est primordial de bien connaître la situation financière de votre entreprise.
de bien connaître notre projet, d'avoir des prévisions financières ou un historique qui est satisfaisant, et puis d'appuyer nos prévisions par des hypothèses qui sont réalistes. Donc là, si on n'a pas les habiletés à savoir si on a des lacunes importantes auprès de notre dossier, ben on peut faire intervenir un consultant financement indépendant comme moi, par exemple, ou encore votre comptable ou quelqu'un qui a quand même une expertise intéressante au niveau du financement institutionnel. Un autre piège à éviter, c'est de cacher l'information à notre banquier. Votre banquier, là, avec 4 années d'état financier, vos intérimaires à jour, vos comptes à recevoir, vos listes de payables, votre bilan personnel, il est capable, dans une demi-heure, une heure, il est capable de vous raconter l'histoire de votre entreprise. Donc, si l'histoire que vous lui racontez quand que vous le rencontrez diffère de l'histoire que racontent vos livres, c'est là qu'il y a un petit doute dans la tête de votre banquier, et puis que là, on va peut-être avoir des questions plus pointues pour essayer de faire un lien entre l'histoire que racontent les états financiers et l'histoire que vous lui avez racontée. Donc, ne pas essayer de cacher d'informations au banquier, dire la vérité, puis le banquier, quand il prend le temps de vous écouter puis de travailler avec vous, lui, là, il veut que ça fonctionne, votre dossier, là. Lui, son objectif, c'est pas de vous dire non, c'est d'essayer de voir s'il est capable de vous aider, puis si ce que vous désirez, puis le portrait de votre entreprise cadre avec la mission de son institution financière.
Que fait-on lorsque nous avons peu, voire pas du tout d'informations liées à notre crédit d'entreprise? C'est le défi qu'a rencontré l'équipe de CoolDell peu après le démarrage de ses activités en mars 2020.
En fait, pourquoi on veut du crédit? C'est que le crédit nous permet, en tant que PME qui n'a pas encore d'historique de crédit, de venir chercher des ressources qu'on n'a pas pour pouvoir vraiment mettre nos idées en place à l'aide de créanciers qui nous font confiance, qui font confiance à nos idées. C'est pour ça que le crédit est assez important.
Lui, c'est Vincent Younan, un des cofondateurs du site web qui permet de commander et de se faire livrer ses emplettes faites chez des épiciers de quartier. À ses débuts, CoolDell a tenté de se procurer une carte de crédit auprès d'une institution financière.
Vu qu'on est un site internet, il nous faut bien ces cartes-là pour faire nos transactions, payer les épiceries, en tout cas juste pour pouvoir gérer l'entreprise. Et c'était très difficile pouvoir avoir une carte de crédit, surtout c'était au pic de la pandémie. Les banquiers étaient un peu inquiets. On n'avait aucun historique de crédit. Mais donc la première réponse était négative. On s'est tourné vers une autre banque. On est allé chez une autre banque. On leur a parlé. On a présenté notre idée. On était chanceux. On a une conseillère qui a cru en nous, qui a poussé l'idée un peu plus, même si on n'avait pas d'historique. Et finalement, on a réussi à avoir une carte de crédit, même à nos tout débuts. Ce qui nous a beaucoup aidé. Même si la limite de crédit n'était pas très élevée, au moins c'était un début. Donc on a évolué avec ça. En discussion, on parlait avec les banques et ils nous avaient dit que justement en temps de pandémie, pour les PME qui venaient de se lancer, ça allait être assez difficile pour l'instant, pour les 5-6 prochains mois, d'offrir une marge de crédit à ces entreprises à cause de la situation qui est assez instable.
Dans cette situation-là, ça nous prend des individus qui sont forts au niveau personnel pour être capable d'aller chercher un financement. Parce que j'imagine que vous cherchez pas un financement de 150, 200 ou 500 000. On doit plus être dans un quelques dizaines de milliers de dollars, peut-être un 50 000 ou quelque chose comme ça. Donc là, on a besoin d'avoir des individus qui sont forts. Quand on veut garantir un crédit sur notre valeur personnelle, d'habitude, on peut penser, si on veut 50 000, ben faut avoir une valeur nette d'environ 100 000. Si on n'a pas cette disponibilité-là ou cette historique-là, on peut peut-être penser d'aller chercher une caution. Donc, peut-être que ça peut être un parent, un ami, un oncle qui serait prêt à supporter le projet et à endosser la caution. Parce que l'institution financière qui va vous donner une ligne de crédit, supposons de 50 000 $, mais elle veut s'assurer que si jamais ça fonctionne pas, qu'elle essuiera pas une perte, mais que quelqu'un va être capable de prendre la facture au bout de la ligne. Donc, l'entente que vous pouvez avoir si jamais vous trouvez cette personne-là qui est prête à vous endosser, c'est de dire, écoute, aide-moi à faire mon démarrage pendant 1 an, 2 ans, signe, puis après ça, on va être capable, on va tout mettre en œuvre pour enlever ta caution, puis en échange, on va te donner soit des parts dans l'entreprise ou on va te donner un taux d'intérêt ou quelque chose. Donc, c'est vraiment, si on n'a pas un assez grand historique au niveau de l'entreprise, c'est vraiment, faut travailler sur le côté personnel. une des erreurs à éviter, c'est d'aller faire des demandes un peu partout. Parce que là, quand vous faites des demandes comme ça, vous faites une demande en entreprise, mais ça, souvent, il va y avoir une demande qui va être faite sur votre crédit personnel. Donc là, si vous faites 2, 3, 4, 5 demandes dans des institutions financières différentes, ben des demandes de crédit qui sont refusées, ça pénalise votre crédit et puis ça devient de plus en plus difficile. Donc la solution, c'est vraiment de vous monter un petit plan d'affaires, dire c'est quoi la clientèle visée. Là, vous commencez à avoir un peu d'historique, donc on peut commencer à faire un prévisionnel qui va être supporté par les derniers mois pour venir justifier un peu le montant qu'on a besoin. Également, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Est-ce qu'on va développer notre plateforme web? Théoriquement, vous n'êtes pas supposé d'avoir des comptes à recevoir ou de l'inventaire à supporter. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'on a besoin de supporter. Puis vraiment, si vous êtes capable d'avoir une caution, ça va venir vraiment, vraiment vous aider. Puis au fil du temps où l'entreprise va croître et va avoir une capitalisation, ben, on va être capable de relâcher cette caution-là.
De manière générale, la banque peut être plus frileuse à l'idée d'investir si on n'a pas de garantie.
Dans le fond, le banquier ne veut pas se retrouver un peu pris dans une cage à homard. Qu'est-ce qu'une cage à homard? Le banquier a prêté de l'argent à une entreprise qui est un petit peu instable. On est basé sur des prévisionnels à profit, mais si jamais les profits ne sont pas là, on n'a aucune capitalisation dans l'entreprise. Donc, l'entreprise a besoin que quelqu'un remette de l'argent et l'individu n'a pas la capacité de remettre de l'argent. Donc, dans une situation comme ça, ça va être soit une faillite ou soit que l'institution financière va devoir remettre des fonds dans l'entreprise. Donc, on veut avoir un partage de risque entre l'entrepreneur, la banque, et des fois, quand on est dans un contexte d'acquisition d'entreprise, on va faire intervenir un concept de balance de prix de vente. Donc, supposons, moi, j'achète une entreprise, on va dire, j'achète l'entreprise 1 million de dollars, je vais mettre 100 000 dollars de mes fonds propres, je vais avoir une balance de vente qui va être conditionnelle à une performance financière du vendeur de 200 000 $ et on va pouvoir, le 700 000 $ manquant, on va aller chercher au niveau institutionnel, peut-être une combinaison institutionnelle et capital de risque, peut-être si les fonds générés le permettent, peut-être que ça va être seulement au niveau de l'institution financière, mais si mon entrepreneur, en plus de ça, a des fonds pour en remettre si jamais c'est plus long avant que la reprise se prenne, et puis qu'on a une balance de vente qui est subordonnée aux avances de la banque, qui est conditionnelle à une performance financière, mais peut-être qu'on va être en mesure de réduire cette balance de vente-là si jamais la performance financière n'est pas au rendez-vous. Ben, on a partagé le risque. Ce n'est pas seulement la banque qui se commet là-dedans. Là.
Vincent Beaulieu-Demers observe que certaines entreprises ne financent pas toujours adéquatement leurs projets.
Dans les pièges à éviter, c'est de ne pas respecter le principe comptable qui est tout simple de financer, dans le fond, le court terme avec le court terme et le long terme avec le long terme. Je vous donne un exemple. L'entreprise avait 200 000 $ dans son compte de banque, devait faire l'acquisition d'un équipement de production pour 100 000 $ n'a pas demandé de financement, a payé, a même fait un chèque de 100 000 $ Plus tard dans l'année, là, on est sur la marge de crédit, on a des problématiques. La marge de crédit, on sait, doit supporter les comptes à recevoir ainsi que les inventaires en attendant que les inventaires soient vendus et les comptes à recevoir encaissés. On a une problématique au niveau de notre fonds de roulement. On va voir notre banquier, on dit « Peux-tu augmenter ma marge de crédit? » Mais la réalité, c'est pas que la marge de crédit est pas suffisante. C'est qu'on s'en est pas servi de la bonne façon. Alors qu'on avait les sommes nécessaires au compte, on aurait dû faire un prêt, mais on s'est servi de ces sommes-là. Donc, quand on est arrivé dans une période où on avait besoin de la marge de crédit, bien, la marge de crédit était occupée par un financement à long terme qui aurait dû être financé à long terme. Donc, ça, c'est un piège à éviter.
Donc, j'ai décidé d'investir parce qu'on avait besoin des nouveaux équipements, puis on a aussi déménagé et j'ai financer ça à même le cash flow. Donc, ce qui fait que quand il y a eu différents écueils qui se sont avérés, comme dans toutes les entreprises, ben là, j'ai dû recourir à la marge de crédit.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Annie Contant. Elle a repris l'entreprise familiale Copy Rapid Montréal en 2015. À l'époque, elle souhaitait à tout prix éviter le crédit.
Côté professionnel, je connais les ratios. On avait notre cours de finance au MBA. Mes parents m'ont expliqué, le banquier. T'sais, je connais ça théoriquement, mais le blocage était vraiment personnel. J'ai même pas pris comme 10 % de la marge de crédit. Mais pour moi, être sur la marge de crédit, c'était un échec bon, il y a un côté anxiété personnelle aussi là, que sur lequel j'ai travaillé parallèlement, mais l'entreprise a jamais été en difficulté financière de quelconque façon. C'était vraiment moi et mes exigences irréalistes.
Annie Contant voit toujours d'un bon œil cette approche économe qui lui a permis d'avoir un très bon crédit personnel. Aujourd'hui, elle estime toutefois que ce moyen de financement a ses avantages pour une entreprise.
On sait jamais, là, une entreprise qui va très bien, mais dans ces mois creux, c'est prévu que, bon, on va tomber sur la marge de crédit, mais après ça, dans les mois forts, on en ressort, puis c'est pas du tout une entreprise qui est en difficulté ou qu'il faut fuir. C'est juste comme ça, c'est les cycles, mais c'est prévu et c'est un outil qui existe et qu'il faut utiliser de façon intelligente. Dans le fond, ce que j'ai fait d'utiliser mes liquidités, ben c'était mauvais, mais ça a été mauvais à court terme. Sur 2 ans que je me suis serré la ceinture, j'ai baissé mon salaire, c'est mon erreur, donc c'est moi qui assume. Donc à court terme, ma situation a été difficile, sauf que à cause de mon raisonnement antérieur, de pas dépenser de l'argent que je n'ai pas. Mais à long terme, cette façon de faire-là est payante. Donc, mais il faut savoir que quand on a besoin d'avancer, ben le financement, c'est presque à 100% une voie que tout le monde utilise.
Une bonne dette, si on fait référence à la marge de crédit entreprise, ça va être que, exemple, on a 100 000 $ sur la marge de crédit, mais on a 200 000 $ de compte à recevoir. Donc, on sait que si on encaissait aujourd'hui l'ensemble de nos comptes à recevoir, on serait capable de payer la marge de crédit, puis on aurait même un solde de 100 000 $ dans notre encaisse. Donc ça, c'est une bonne dette. Une mauvaise dette, c'est supposons que l'entreprise ne génère pas assez d'argent pour assumer ses responsabilités, donc on a un déficit de cash flow, puis que le déficit de cash flow s'accumule sur la marge de crédit. Un peu, je vais faire une comparaison avec un crédit personnel. Si on emprunte pour acheter un actif, une maison, un immeuble à revenus, c'est une bonne dette parce qu'on a un actif qui génère des revenus ou qui un actif intéressant qui va s'apprécier dans le temps. Par contre, si on dépense plus qu'on gagne, puis qu'on a besoin d'une marge de crédit pour venir patcher dans le fond le déficit, ben ça c'est une mauvaise dette. Quand on a recours à faire une demande de financement, normalement ça devrait supporter un projet qui va amener des retombées. Je vais donner un très bon exemple. Présentement, la COVID a touché plusieurs entreprises et présentement, il y a beaucoup d'argent disponible dans le marché. On parle des prêts de fonds de roulement où on a donné des moratoires aux entreprises pour les aider. Si on est allé chercher un prêt d'un certain montant pour venir un peu éponger une période plus difficile, ben ça, c'est une capacité d'endettement qu'on n'aura pas pour le futur pour un certain nombre de temps jusqu'à temps que cette dette-là soit remboursée. Donc, présentement, on en a besoin, mais présentement, il peut avoir un peu d'anxiété des entrepreneurs à avoir recours à ces prêts-là parce que supposons qu'on a emprunté 200 000, mais que finalement, on avait un projet peut-être dans un horizon d'un an de 200 000 pour acheter un équipement pour accroître notre production. Ben là, le 200 000 a juste servi à venir combler un déficit. Donc, on n'aura possiblement pas accès à cet argent-là dans le futur. Donc ça peut avoir une certaine anxiété par rapport à ça, mais on fait ce qu'on peut avec la situation, là.
Avant de se laisser, penchons-nous sur une question que l'un de vous nous a soumise. Un peu exaspéré, un entrepreneur se demande pourquoi les organismes de financement n'accordent des sommes qu'à ceux qui ont de l'argent pour garantir l'investissement.
Lorsqu'on parle de financement d'entreprise, on regarde la capacité de payer de l'entreprise ainsi que sa capitalisation. Lorsqu'on a une certaine lacune au niveau de la capitalisation de l'entreprise, donc qu'on n'a pas beaucoup d'actifs ou de garanties au niveau de l'entreprise, on se tourne vers l'individu. Lorsque l'individu possède beaucoup d'argent, mais ça vient pallier à plusieurs lacunes au niveau de l'entreprise, donc ça vient simplifier le processus. Par contre, on est capable de justifier des prêts si on a confiance sur la profitabilité future de l'entreprise, même si l'individu ne possède pas d'importantes sommes personnelles.
C'est ce qui conclut cet épisode de Se tirer d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Je m'appelle Catherine Charron. On se retrouve dans un prochain épisode.
La Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de Se tirer d'affaires, en espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils pour surmonter vos défis d'entrepreneur. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions, on est là. Banque nationale.